France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction. Avec vous, Mathieu Laurent, rebonjour.
Rebonjour Marie et bonjour à tous. Dans cette édition, nous prendrons le temps de décrypter ce qui est à l'œuvre au sommet de l'État. Après la déclaration ce matin de Sébastien Lecornu, le Premier ministre s'engage à renoncer au 49-3, cet article de la Constitution de la Ve République qui permet au gouvernement de faire adopter un texte sans vote au Parlement. Déport du pouvoir au Parlement pour changer de méthode, a déclaré le Premier ministre. Précision de Rosalie Lafarge. Réaction du Rassemblement National et du Parti Socialiste reçu ce matin à Matignon, où nous retrouverons Adrien Toffolet et Lucien Lefebvre. Est-ce une rupture? Si oui, de quelle nature? Question que nous poserons avec Stéphane Robert à notre invité, Sami Benzina, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'université de Poitiers. Nous nous intéresserons également à la flottille pour Gaza. Ils étaient une quarantaine de bateaux et le dernier d'entre eux a été intercepté ce matin à 7h30 en temps universel à environ 43 000 nautiques de l'enclave palestinienne. Plus de 400 militants à bord de 41 navires ont été arrêtés lors d'une opération qui a duré environ 12 heures. Parmi eux, des dizaines de ressortissants français, Florence Sturm a pu joindre le collectif d'avocats à leur chevet. Et puis à Rome, deuxième jour de manifestation en soutien et à la flottille et au peuple palestinien. Ce sera une correspondance de Bruno Duvic. Enfin, au Maroc, un éclairage sur le mouvement Gen Z 212, qui après 6 jours de contestation, demande la démission du Premier ministre Aziz Aranouche. Après 24 jours de retenue médiatique, ponctuée d'entretiens, de faits d'alcôve, le Premier ministre a rompu le silence, la discrétion dont il est coutumier, pour, devant l'hôtel Matignon, en début de matinée, prendre l'engagement suivant. Sébastien Lecornu.
J'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'écrire la copie. Et on le sait très bien, c'est un outil utile, mais c'est un outil qui a plutôt été imaginé par Michel Debray pour contraindre sa propre majorité. Or, dans un Parlement qui a été renouvelé il y a plus d'un an, qui ressemble aux Français, on ne peut pas passer en force et on ne peut pas contraindre son opposition. Renoncer à l'article 49 et alinéa 3 ne doit pas nous faire renoncer à ce que la France ait un budget au 31 décembre. Et donc, c'est sur la base de cette nouvelle méthode, de cette rupture, où le gouvernement déporte encore davantage le pouvoir à l'Assemblée nationale et au Sénat, que je vais pouvoir engager un certain nombre de discussions. Il n'y a donc plus aucun prétexte pour que ces débats ne démarrent pas la semaine prochaine.
Michel Debray, que cite Sébastien Lecornu, a été le premier à assurer les fonctions de Premier ministre sous la 5e au terme d'une 4e République qui aura compté 24 gouvernements en 12 ans d'existence, durée de vie moyenne estimée à 6 mois. Sébastien Lecornu s'inspire donc de cette rupture pour en proposer une autre, remettre au Parlement et donc au corps politique la responsabilité d'un échec, d'un blocage, d'une paralysie des institutions, Rosalie Lafarge.
Et c'est malin, salue d'abord un ancien ministre macroniste, c'est malin parce que ça prend l'opinion publique à témoin et ça déporte effectivement la responsabilité sur les oppositions. Le Premier ministre dit en somme, vous avez ou vous allez avoir ma copie, maintenant faites la vôtre, le pouvoir est entre vos mains, si vous vous mettez d'accord, si vous trouvez des majorités, rien n'est interdit, même ce dont le gouvernement ne veut pas. Sur le papier c'est très bien, le problème c'est qu'il n'y a pas un adulte dans l'hémicycle, soupire un député du centre. Il redoute une explosion des dépenses, des alliances de circonstances entre le Rassemblement national et la France insoumise. On a déjà vécu des nuits à 50 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, souffle cet élu, persuadé qu'au-delà de demander au bloc central une mobilisation très forte, tout ça va finir en budget des horreurs. Il n'y a pas que l'Assemblée, rappelle un sénateur Renaissance. Oui, les députés vont faire un budget fou, on sera là pour le retravailler sérieusement, insiste-t-il. Ça repartira à l'Assemblée, au Sénat, puis en commission mixte paritaire, où 2 fois sur 3, droite et centre sont majoritaire. La dernière version, on n'y est pas, conviendra-t-elle au Palais Bourbon? Non, prédit déjà ce macroniste qui imagine les députés la retoquer. Mais même sans le 49-3, le gouvernement conserve quelques outils pour doter la France malgré tout d'un budget. Et puis ce n'est pas le seul scénario possible. On peut aussi rêver, à quelques mois des municipales, que chaque parti dit de gouvernement prendra ses responsabilités, rit sans trop y croire un parlementaire du socle commun. Rien n'est fait donc, ce qui est quasiment acquis en revanche pour le bloc central, c'est qu'avec cette rupture, Sébastien Lecornu gagne du temps et éloigne pour quelques mois au moins la menace de la censure.
Rosalie Lafarge, le Premier ministre répond à une demande forte de la gauche, souligne ce matin sur le réseau social X le ministre des Affaires étrangères démissionnaire, Jean-Noël Barrot. Pour cette initiative, poursuit-il, il garantit au Parlement qu'il pourra débattre jusqu'au bout dans le respect du pluralisme. Sébastien Lecornu a eu un geste de pluralisme ce matin puisqu'il a reçu, et dans l'ordre, le Rassemblement National puis le Parti Socialiste à Matignon. Matignon, où vous vous trouvez, Adrien Toffolet, bonjour.
Bonjour.
Que dire, Adrien, des constats et observations des deux délégations ?
Eh bien déjà, ce sentiment partagé par Marine Le Pen à la sortie de son rendez-vous, qui a pourtant duré 1h30.
Nous avons un peu le sentiment, depuis quelques mois, de vivre un jour sans fin.
Car malgré les petits éléments dévoilés au compte-gouttes par Sébastien Lecornu ces derniers jours...
J'en ressors sans avoir une vision extrêmement précise de ce que M. Lecornu souhaite faire, ce qui est assez inquiétant à quelques jours du discours de politique générale. Je ne vois pas bien la rupture avec le macronisme.
Un énième rendez-vous pour rappeler au Premier ministre les exigences du RN. Et même si la députée reconnaît que l'annonce de ne pas utiliser le 49-3 est plus respectueux de la démocratie, pour elle, l'avenir de Sébastien Lecornu se jouera la semaine prochaine.
Le Rassemblement national, s'il n'y a pas de 49-3, va soit, à l'issue du discours de politique générale, décider de censurer parce que, véritablement, il n'y aura aucun élément qui pourra sauver ce gouvernement, ou alors prendra la décision de participer aux travaux parlementaires.
Mais concrètement, ce qu'il ressort de ce matin, c'est avec les socialistes. C'est avec eux que le Premier ministre semble chercher le compromis. La délégation du PS est encore avec Sébastien Lecornu. Cela fait maintenant près d'1h45 qu'ils s'entretiennent et on voit poindre des avancées. Selon l'entourage du Premier ministre, il est toujours contre une taxe Zucman et propose à la place une taxe sur le patrimoine financier qui ne touchera pas le patrimoine professionnel. Il convient sur l'optimisation fiscale que certains dispositifs pour les plus riches ne sont pas défendables. Enfin, sur le pouvoir d'achat, point très important pour les socialistes, Sébastien Lecornu serait ouvert à défendre une mesure en ce sens. Autrement dit, de vraies mains tendues vers la gauche qui doivent encore dire, à l'issue de ces consultations, si elles seront suffisantes pour éviter au futur gouvernement une censure.
Merci Adrien Toffolet, merci à vous avec les moyens techniques de Lucien Lefebvre. Nous sommes en ligne, comme convenu, avec Samy Benzina, constitutionnaliste et professeur de droit public à l'Université de Poitiers. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés, Stéphane Robert, chef du service politique de la rédaction de France Culture. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu.
Première question, Samy Benzina. Avec ce renoncement au 49-3, peut-on véritablement parler de rupture, ainsi que le prétend le Premier ministre ?
Il s'agit effectivement d'une rupture. Hein. On n'a jamais eu d'annonce de ce type sous la Ve République. Et il faut même ajouter que c'est une rupture particulièrement risquée, dans la mesure où, je le rappelle, hein, depuis 2022, aucun budget n'a été adopté sans l'article 49 alinéa 3, faute de majorité absolue au soutien du gouvernement.
Pourquoi est-ce que le Premier ministre fait cela ? Est-ce une manière de gagner du temps ?
Alors, il y a sans doute de sa part une stratégie pour éviter la censure, parce qu'il ne faut pas oublier que s'il déclenchait l'article 49 alinéa 3 au cours de la discussion budgétaire, on serait dans une situation où il y a une probabilité assez élevée qu'il soit censuré. Et donc, en renonçant à cette utilisation, en réalité, il se protège d'une censure immédiate et s'ouvre une ligne de crête assez étroite pour l'avenir.
Est-ce qu'il est possible, à votre avis, de faire adopter un budget sans 49-3 quand on ne dispose pas, comme c'est le cas actuellement, de majorité ?
Alors, c'est la grande question, parce que, comme je vous l'ai dit, même à l'époque du gouvernement minoritaire socialiste, à partir de 88, le 49-3 était utilisé. Si vous voulez, il n'y a que trois hypothèses, à mon avis. La première, c'est celle d'une hypothèse où le Premier ministre réussit à trouver un accord sur le budget avec l'extrême droite ou la gauche, qui conduirait à se mettre d'accord sur un texte de compromis et qui permettrait de le faire adopter. La deuxième hypothèse, c'est l'absence de compromis avec l'extrême droite ou la gauche, mais trouver des compromis mesure par mesure, à condition que cette espèce d'ensemble hétérogène ne conduise pas à des contradictions telles qu'elles pourraient provoquer une opposition en réalité de la gauche et de l'extrême droite. Et enfin, l'hypothèse qui n'est pas complètement écartée, même si elle va être difficile, c'est celle d'une adoption du budget par le gouvernement lui-même, par voie d'ordonnance, si le Parlement ne réussissait pas à se prononcer sur le texte dans un délai de 70 jours.
Mais comment ce serait possible, ça ?
Alors, il faut savoir que le constituant de 1958 a voulu éviter ce qui se passait sous les 3e et 4e républiques, c'est-à-dire que le Parlement ne se prononçait jamais sur le budget avant, ou rarement sur le budget avant le 31 décembre. Et il a enfermé donc l'examen du budget dans un délai de 70 jours à compter de son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire que si l'Assemblée nationale ne se prononce pas dans un délai de 40 jours, c'est-à-dire qu'elle l'adopte ou pas ou elle rejette pas le texte, il est transmis au Sénat qui dispose de 15 jours, qui, s'il ne se prononce pas non plus, revient à l'Assemblée nationale et in fine, si le Parlement ne s'est toujours pas prononcé, le gouvernement peut promulguer le budget par voie d'ordonnance à compter du 1er janvier.
C'était une demande du Parti Socialiste, hein. Olivier Faure a fait la demande le 10 septembre au gouvernement de renoncer à l'usage du 49-3. Est-ce que c'est de nature à modifier le comportement des socialistes et plus généralement celui des forces politiques d'opposition ?
Alors, la difficulté, c'est que c'est certes une demande qu'ont fait les socialistes, mais le fond de la difficulté, c'est qu'on a des élections municipales qui arrivent, on a une dissolution qui est dans l'esprit de beaucoup de députés, et on a surtout un problème majeur, c'est que l'article 49, alinéa 3, n'est qu'un instrument. La question, c'est le fond du texte. C'est est-ce que le gouvernement va pouvoir faire accepter au socle commun et à l'extrême droite des mesures demandées par les socialistes ? C'est là où est toute la difficulté.
Est-ce que c'est de nature, à votre avis, à changer la façon de faire de la politique en France, à favoriser la constitution de coalition,
comme en Allemagne, d'ailleurs,
dans d'autres pays européens ?
Le fait est que vous avez raison, l'article 49 alinéa 3, parce que c'est un outil qui a été utilisé sous la 5e République comme un instrument du présidentialisme majoritaire, n'est pas de nature à favoriser les coalitions. Mais le seul fait d'y renoncer ne permettra pas nécessairement la constitution de coalition si la culture des partis politiques qui sont actuellement à l'Assemblée nationale ne change pas. Comme je vous l'ai dit, le fait que le gouvernement n'utilise pas le 49-3 ne veut pas dire que l'extrême droite, le Parti socialiste, LFI ou le socle commun vont pour autant se mettre d'accord.
Merci à vous, merci Sami Benzina, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Poitiers, d'avoir accepté notre invitation. Merci à Louise Guérin pour la préparation, à vous Stéphane Robert. Et il est 12h et presque 42 minutes.
Il ne reste plus aucun bateau de la flottille pour Gaza.
Ils étaient une quarantaine et le dernier d'entre eux a été intercepté ce matin à 7h30 en temps universel, à environ 42,5 milles nautiques de l'enclave palestinienne. Plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille ont été arrêtés lors d'une opération qui a duré environ 12 heures. Parmi eux, des dizaines de ressortissants français. Florence Turm, vous avez pris langue avec le collectif d'avocats qui s'inquiète du sort que leur réservent les autorités israéliennes.
Ils sont 35 ressortissants français, militants, médecins, parlementaires et membres de la société civile dont les familles sont toujours sans nouvelles, dénonce Romain Ruiz, l'un des avocats du collectif qui les représente.
Les seules nouvelles que nous pouvons glaner se trouvent aujourd'hui sur les réseaux sociaux puisque une vidéo absolument infâme du non moins infâme ministre de l'Intérieur israélien Itamar Ben-Gvir circule où l'on voit ce brave homme installer nos clients en rond assis en tailleur dans un endroit inconnu pour les traiter devant les caméras de terroristes et railler leur engagement humanitaire. La protection consulaire qui nous a été vendue par le Quai d'Orsay ne fonctionne absolument pas. Donc nous sommes dans une situation où 35 de nos concitoyens sont aujourd'hui arbitrairement détenus dans un lieu inconnu par l'État d'Israël. Nous avons en main un courrier qui nous a été adressé par Aurélien Le Chevalier, qui est le directeur de cabinet de Jean-Noël Barrot, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, qui écrit noir sur blanc que toute attaque avérée à l'encontre de la flottille constitue une violation grave du droit international. Et en regard, nous n'avons aucune réaction concrète de la part de notre pays.
Le collectif d'avocats demande solennellement à l'État français d'intervenir au soutien de l'action engagée devant la Cour internationale de justice par l'Afrique du Sud à l'encontre de l'État d'Israël. Il compte également engager la responsabilité de l'État français pour inaction, faute d'avoir envoyé des bateaux pour escorter la flottille, comme l'ont fait par exemple l'Espagne et l'Italie. Enfin, le collectif va déposer plainte auprès du parquet de Paris pour détournement de navires et détention arbitraire.
Et Reporters sans frontières a dénoncé l'arrestation de plus de 20 journalistes internationaux par les forces israéliennes lors de l'interception de cette flottille et demande leur libération immédiate. Il y a ces tentatives de mettre un pied à terre à Gaza par la mer et via ces flottilles afin de ne pas oublier le blocus total exercé par Israël. Est-ce qu'il s'y passe ? C'est en tant de soutien, en tant au soutien de la flottille qu'au peuple palestinien qu'une grève générale est d'ailleurs organisée en Italie, des rassemblements à la faveur d'une deuxième journée de manifestation à Rome. Rassemblement suivi pour nous par Bruno Duvic.
8h30, les étudiants du mouvement de gauche radicale Cambiare Rotta, comme Riccardo, filtrent la principale entrée de la Sapienza, la grande université de Rome.
Nous avons bloqué l'entrée de l'université parce qu'aujourd'hui tout le pays doit cesser de travailler. Les milliers de personnes qui ont manifesté le 22 septembre et recommencent aujourd'hui donnent un signal fort.
À 500 mètres de là, la gare de Termini, panneau des arrivées quasi vide, beaucoup de retard et des annulations côté départ. Gianfranco attend.
J'ai de la chance, mon train est sur la liste des voyages garantis. Je suis solidaire de la protestation, même si la grève n'est pas le meilleur mode d'action. La France et d'autres pays européens ont reconnu l'état de Palestine et notre gouvernement se contente de dénoncer ceux qui manifestent.
De l'autre côté de la gare, la place Victor-Emmanuel, c'est de là que part le cortège romain, drapeau d'un des principaux syndicats et du premier parti de gauche. Mais les milliers de personnes qui arrivent vont au-delà des militants habituels. C'est le cas d'Ornella.
Nous sommes ici pour défendre les droits de l'homme. Nous voulons que le droit international soit respecté. C'est aussi pour nos enfants. Nous sommes là en tant que parents pour donner l'exemple.
Le 22 septembre, les organisateurs de la première journée de grève avaient revendiqué la participation de 500 000 personnes dans toute l'Italie. On verra ce qu'il en est aujourd'hui.
Bruno Duvic, correspondant de France Culture en Italie, ce vendredi, les Nations Unies assurent qu'il n'existe pas de refuge sûr pour les Palestiniens contraints de quitter la ville de Gaza, qualifiant de lieu de mort les zones de sécurité désignées par Israël dans le sud. L'idée d'une zone de sécurité dans le sud est une farce, affirme James Elder, porte-parole de l'UNICEF. Selon lui, dans le sud du pays, des bombes sont larguées avec une précipitation effrayante. Les écoles qui avaient été désignées comme abris temporaires sont régulièrement réduites en ruines et les tentes sont régulièrement la cible de bombardements aériens. Fin de citation. La Russie a mené une attaque massive contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine dans plusieurs régions au cours de la nuit. Le ministère ukrainien de l'énergie le précise. Selon Kiev, la Russie a lancé 381 drones et 35 missiles visant les infrastructures des régions de Kharkiv et de Poltava dans l'est du pays où se situent les principales installations de production de gaz du pays.
Au sixième jour de contestation au Maroc, le mouvement Gen Z 212 prend un tour encore plus politique.
Six jours de manifestation pour de meilleurs services de santé et d'éducation, marqués avant-hier par des violences meurtrières. Trois morts lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. La santé, l'éducation et plus d'État, en somme, mais pas avec cette équipe gouvernementale. Omar Waman.
Celui qui concentre toutes les critiques, le rejet le plus ferme, n'est autre que le premier ministre marocain Aziz Akhannouch, deuxième fortune du Maroc, d'après le magazine américain Forbes. Aziz Akhannouch, critiqué pour son long silence, a fini par prendre la parole sous la pression des manifestants de plus en plus nombreux dans les rues du royaume.
Nous avons tous suivi les développements malheureux qui ont connu une escalade grave. Mais le gouvernement répond à ces demandes sociales et il dit sa disposition au dialogue au sein des institutions et des espaces publics.
Le ton conciliant tranche avec la colère sociale qui embrase le Maroc, un décalage entre une classe dirigeante marocaine accusée de prédation et une jeunesse frappée par le chômage massif. Une chose est certaine, cette prise de parole n'a pas convaincu les manifestants qui exigent des actes et cela doit passer selon eux par un changement de gouvernement dans un premier temps et des réformes en profondeur, des revendications qui font écho au discours du roi Mohamed VI en juillet dernier lors de la fête du trône. Mohamed VI qui déclarait qu'il n'y a de place ni aujourd'hui ni demain pour un Maroc à deux vitesses.
Omar Waman, le centre de la capitale malgache est placé ce matin sous forte surveillance des forces de l'ordre en prévision d'un nouvel appel à manifester. Le président Ange Radzoel, poursuivant ses consultations sur le choix du nouveau Premier ministre, l'île particulièrement pauvre de l'océan Indien est le théâtre depuis 8 jours de manifestations qui réclament désormais le départ du chef de l'État après avoir débuté comme l'expression d'un ras-le-bol contre les coupures incessantes d'eau et d'électricité. Et puis on a commencé par évoquer un Parlement et l'augmentation de sa puissance d'agir, formule chère à Gilles Deleuze. Eh bien, le Parlement argentin a infligé hier un nouveau revers politique au président ultralibéral Javier Milei, un défi à sa politique d'austérité en rejetant deux vétos présidentiels à des textes sur des financements pour l'université publique et un hôpital pédiatrique. Quelques mots de la météo pour refermer ce journal. Météo de l'après-midi, une perturbation gagne un grand quart nord-ouest avec des pluies faibles et intermittentes. Température comprise entre 13 et 16 degrés dans le nord-est, entre 17 et 24 degrés dans l'ouest et le sud. Ce journal a été réalisé par Yann Ozaman. Prochaine édition à 18h avec Olivier Vogel.